coach parce que c'est passionnant et il y a beaucoup de... Enfin, c'est un peu stressant. Et bah, ça passe au Tahiti. J'aime bien Tahiti avec les jolies danses. Et, bah.
J'aime bien les films de James Bond parce qu'il y a plusieurs actions. Il y a un peu de suspense à chaque fois. Après, il y a la musique, elle est passionnante.
Mais moi, j'ai que des films préférés qui sont vraiment très, très différents. Genre L'Impasse de Brian De Palma et La La Land, par exemple, de Damien Chazelle. C'est vraiment deux de mes films favoris.
Le premier, c'est Tarzan. Il y a Sonic.
Moi aussi, j'aime bien E.T., mais il m'avait fait peur au début.
Alors moi, j'aime bien 20 milieux sous les mers parce que j'aime bien les créatures imaginaires, surtout le calmar géant.
Bon, moi, j'ai oublié le nom du film. C'est des policiers, ils envoient des aventuriers pour faire la guerre et après, bah, si à la fin, ils réussissent la mission, bah, ils gagnent un truc. Enfin, ils sortent de prison.
Avengers. Parce qu'il y a des films, il y a de l'action, il y a beaucoup d'effets spéciaux.
Bah, il faut déjà qu'il y ait de bons acteurs, hein, parce que si les acteurs ne jouent pas bien...
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec enthousiasme que je vous annonce une liste dans l'heure qui vient. J'aime les listes, je sais que je ne suis pas la seule. Liste de courses, liste de trucs à faire dans la semaine, dans l'année, dans la vie. Liste d'invités, liste des meilleurs moments en rentrant de vacances. Et aujourd'hui, nous parlons cinéma. Ce nouvel épisode de Barbatruc sera une liste des films à voir avec ses enfants. Garantie 100% subjective, car établie par mes invités, et non exhaustive, évidemment. On en profitera pour se demander comment partager le goût du cinéma avec les petits et les ados. Comment les convaincre de regarder de vieux films? Faut-il vraiment les convaincre d'ailleurs? Comment prendre en compte leur capacité de concentration et leur don d'émerveillement? Et leur rapport à l'image pour eux qui sont nés dans un monde d'images? Attention à ne pas à tout prix vouloir leur transmettre nos films fétiches. Chacun ses listes de chefs-d'œuvre. Au programme également, les conseils de lecture de Denis Chessou. L'as-tu lu, mon petit loup? Ce sera autour de 15h50. C'est parti, des grands films pour les petits.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page et réalisée par Christophe Imbert, avec Gilles Gaillard à la technique. J'accueille trois invités, une comédienne, un réalisateur et une monteuse. Trois métiers de cinéma pour aider les parents à partager leur goût du cinéma avec les enfants. Bonjour Ariane Ascaride.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes en ce moment au théâtre, sur la scène de la Scala à Paris, pour un spectacle musical sur Paris, entre poèmes et chansons. Ça s'appelle Paris Retrouvé. Et vous êtes la marraine d'un très beau festival de cinéma qui démarre la semaine prochaine à Paris. Vous êtes décidément la plus parisienne des Marseillaises.
En fait, je me suis rendu compte que j'avais vécu plus longtemps à Paris qu'à Marseille. Il y a mon grand désespoir, je le dis bien. Mais ça fait très longtemps que je suis ici et que c'est une ville que j'aime profondément.
Ça s'appelle Mon Premier Festival, du 20 au 29 octobre, pendant les vacances de la Toussaint, ça tombe bien. Une centaine de films, au tarif unique de 4 euros la séance, dans 12 cinémas parisiens. Et vous présentez à l'occasion de ce festival vos trois coups de cœur, qui sont trois films pour enfants qu'on va mettre dans notre liste aujourd'hui. Les 400 coups, Mon voisin Totoro et La gloire de mon père. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Bonjour Nicolas Boukrieff.
Bonjour.
Bienvenue à vous, scénariste et réalisateur. Bonjour Lydia Boukrieff.
Bonjour.
Bienvenue également, vous êtes monteuse, mari et femme, le patronyme est un indice. Vous avez travaillé ensemble sur plusieurs films, notamment « Trois jours et une vie » ou « Made in France » et vous avez écrit ensemble un livre intitulé « 100 grands films pour les petits » chez Grund et Arte Éditions. C'est un bouquin très précieux pour les parents, c'est testé et approuvé à domicile. On y trouve des incontournables du cinéma d'auteur, mais aussi des films beaucoup moins connus. Inutile de vous demander si vous aimez les listes, Nicolas Boukrieff.
Oui, ben forcément, hein, quand on fait un livre comme ça, on est parti dans des listes et des méga-listes. Parce que pour arriver à 100, on a commencé par une liste de 500, puis 300, puis en voyant les films pour arriver à 100. Donc oui, là, on avait intérêt à aimer les listes pour ce
Le problème, Lydia Boukrieff, c'est le 101e, celui qui n'est pas dans la liste.
Tout à fait. Mais on a annoté des films à côté pour être certain qu'on pouvait aussi placer les films qu'on aimait et qui seraient pas
sélectionnés.
Voilà, tout à fait.
Quels critères avez-vous privilégié pour choisir ces 100 grands films pour les petits?
L'émerveillement et la diversité. C'est-à-dire sortir du tout 3D numérique et tout américain pour ouvrir les plus petits de 3 à 8 ans au cinéma mondial. et à toutes les poétiques et les esthétiques qu'il y a pu y avoir sur un siècle de cinéma et pas rester cantonné juste au dernier classique, au dernier succès du moment.
Si vous m'autorisez une question personnelle, est-ce que vos enfants ont servi de cobayes pour la préparation
un
de ce livre?
Ouais. Bien sûr, évidemment.
Si ça ne leur plaît pas, ça n'est pas dans le bouquin?
Si, si.
Non, ça dépendait, en fait. Oui, ouais. En fait, ils avaient, donc, 4 et 9 ans quand ouais. On a commencé à faire le livre. Et évidemment, c'était surtout pour les vieux classiques. C'est-à-dire, se dire, les classiques de notre enfance ne sont pas forcément les classiques des enfants d'aujourd'hui, même si ça peut être des classiques pour des cinéphiles plus âgés. Ouais. Mais ne pas imposer de dire, voilà, ce film-là est un chef-d'œuvre, et à 5 ans, vous devez le voir comme nous l'avons vu à 5 ans. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des films qui passaient pas la rampe auprès des nouvelles générations, même s'ils peuvent intéresser des cinéphiles plus âgés.
Ça, c'est une question d'or. C'est déjà très important, Ariane Ascaride. Est-ce que les films qui nous ont touchés quand on était enfant doivent forcément toucher les enfants d'aujourd'hui?
Alors, en fait, moi, je me suis jamais posé les questions comme ça. C'est-à-dire parce que moi, j'ai été élevée par des parents qui m'emmenaient au cinéma sans me demander mon avis. Chez moi, il n'y avait pas de télévision. Il y avait un cinéma de quartier dans ma rue. Donc, on allait au cinéma 2 fois par semaine, le mercredi soir, puisqu'à ce moment-là, l'école n'était pas le jeudi, et le samedi soir. Donc, j'allais voir ce que mes parents allaient voir. J'ai jamais, si vous voulez, mes parents n'ont jamais décidé de m'emmener voir du cinéma pour enfants. Absolument jamais. Et du coup, j'ai vu des trucs très très différents. Après, avec l'école, il y avait Le Ballon Rouge ou des choses comme ça. Parce que, bon, moi c'est un film que j'ai adoré quand j'étais enfant, Le Ballon Rouge, que j'ai vu avec l'école. Oui, j'ai un peu forcé mes filles à regarder Le Ballon Rouge. Et en fait, ça a marché.
Ah.
Ça a très bien marché. Et c'est vrai que l'art, c'est l'art, quoi. Si vous voulez, pour moi. C'est pareil pour les livres, c'est pareil pour les films, c'est pareil pour les tableaux, c'est pareil pour tout. Ce qui compte pour moi avant tout, c'est que eux, ils fassent leur choix.
Le Ballon Rouge, film d'Albert Lamorisse, sorti en 1956, c'est une histoire d'amitié entre un enfant et un ballon. Et c'est encore une histoire parisienne, décidément, Ariane Ascaride.
Ah, mais moi, j'étais fascinée par Paris. Moi, je suis comme beaucoup d'immigrés. Vous savez, j'ai le même sentiment que je suis immigrée, moi, quand même, ici. Je suis arrivée avec une culture qui était une culture du bassin méditerranéen en France, qui est Marseille. Mais ce que je voyais de Paris, c'était tellement différent. Les rues, les choses comme ça, ça avait rien à voir avec mes rues et le public qu'il y avait dans mes rues, la population qu'il y avait dans mes rues. Donc ça me fascinait.
Le Ballon Rouge, Nicolas, Lydia Boukrieff, les enfants d'aujourd'hui, c'est bien accueilli?
Ah, complètement. Ouais. En fait, dans le livre, on a mis un autre film de Lamorisse qui est Crin Blanc, mais qui se passe en Camargue, donc j'imagine que ça faisait moins fantasmer la petite fille que vous étiez, bien sûr. Mais c'est vrai qu'Albert Lamorisse a un univers à lui, ses films sont des classiques pour enfants, et il marche toujours autant, toujours à fond, parce qu'il a fait un cinéma qui est très très proche de l'enfance. Lui-même devait, je pense, avoir des problèmes avec les adultes, sa carrière en témoigne, c'est quelqu'un qui a fait très peu de films, et qui sont des films qui gardent une puissance poétique maximale pour les enfants et les adultes.
Des enfants et des films, on est ensemble jusqu'à 16h.
Barbatruc, Barbatic, Pontefère, Candy. Mais le train est déjà arrivé.
C'était Cassidy sur France Inter. Comment donner aux enfants le goût du cinéma et quels films leur montrer, surtout? Les invités de Barbatruc ont des éléments de réponse. Nicolas Boukrieff, réalisateur, Lydia Boukrieff, monteuse de cinéma, et Ariane Ascaride, comédienne et marraine de Mon Premier Festival qui aura lieu la semaine prochaine à Paris. Un nouveau nom dans notre liste de films. Après Gérard Lamorisse, je vous propose qu'on y place Georges Méliès, parce que ces films peuvent séduire, je crois, les tout-petits, Lydia Boukrieff. On n'a pas forcément le réflexe de montrer Méliès aux très jeunes enfants.
Oui, et pourtant, c'est parfait pour les tout-petits. Mmh. Le noir et blanc leur simplifie leur champ de lecture. Le fait que ce soit muet, les décomplexe complètement, c'est complètement libre. Ils voient ces vieux messieurs avec ces grandes barbes. On peut aussi, comme on disait dans le livre, changer la musique parce qu'elle est un peu vieillotte.
Ah, vous changez la musique, vous.
Voilà, on peut changer la musique et y mettre une musique qu'ils aiment. Comme ça, ils sont partie prenante du choix de la musique. Non, c'est un film qui marche très très bien sur les petits.
Alors, je signale qu'une douzaine de films de Méliès, souvent assez courts, sont disponibles en ce moment gratuitement sur le site d'Arte, arte.tv, encore pour quelques jours, et notamment Le Locataire Diabolique, un film que j'adore, l'histoire d'un homme qui sort de sa valise, un peu comme Mary Poppins, tout un décor pour meubler un appartement. Évidemment, quand le propriétaire arrive, il est très surpris, c'est une pantalonnade. Georges Méliès, c'est un magicien cinéaste, Nicolas Boukrieff.
C'est un magicien, bien sûr. Et c'est pour ça que pour les tout-petits, c'est idéal. Parce que c'est beaucoup plus simple à regarder pour eux, et beaucoup plus joyeux, parce que ça leur demande un effort de regarder un long métrage ou de regarder les dessins animés qui passent le matin sur les chaînes, qui sont hystériques, avec beaucoup de dialogues. Alors que les tout petits, vous les mettez devant Méliès, c'est simple, c'est beau, c'est poétique et c'est magique, parce que c'était un magicien. Donc il enchantait les adultes à l'époque, mais aujourd'hui ça marche très très bien auprès des petits-enfants.
Le voyage dans la Lune et ce professeur Barbanfouilly qui organise une expédition lunaire, ça marche très bien aussi, Lydia Boukrieff.
Ça marche très très bien, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est un éternel en fait, même les plus grands y retournent volontiers. Ça fait partie des souvenirs d'enfance en fait, qui nous accompagnent.
Ariane Ascaride, c'est faux de s'imaginer que le muet et le noir et blanc, c'est un repoussoir pour les enfants?
C'est complètement faux, mais alors vous avez pas idée, parce que je pense que effectivement les petits enfants quand ils jouent eux-mêmes entre eux, il n'y a pas obligatoirement énormément de dialogue, si vous voulez. Vous voyez, quand ils jouent, ils se disent juste à un moment donné, toi tu ferais ça, alors bon moi je le fais, et puis voilà, puis ça se fait quoi, c'est simple, précis. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que ils regardent les images. Faut toujours penser que les enfants ont une manière de regarder les images qui est très 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 différente de la nôtre. Hein. C'est pas du tout la même grille de lecture. Donc si nous on se met à leur place, on se trompe. Mais même dans la réalité de tous les jours, ils vont, je sais pas moi, un camion de pompiers qu'ils ont tout le temps dans la main va se transformer en 36 000 choses dans la même journée, parce que ça va passer sur un fauteuil, ou ça va passer par terre, ou ça va aller dans le placard. Mais c'est ça la force de l'enfant, ça n'arrête pas d'imaginer. Donc, quand la lune, elle se prend une fusée dans l'œil, moi je pense que, enfin, moi j'ai ce souvenir là même de moi, je me dis, ça fait mal. Vous voyez?
Et on ne voit plus jamais la lune de la même façon d'ailleurs. Non, absolument. Après le voyage dans la lune.
Pas du tout. La lune est une personne, enfin, je sais pas comment dire, un être avec lequel on peut avoir de la complicité.
Donnons la parole à des enfants, si vous le voulez bien. Notre reporter Juliette Proutot a promené son micro dans les rues de Nantes et de Paris avec cette question. Quelle différence entre les films pour enfants et les films pour adultes?
Maintenant, j'ai plus les goûts de mes parents, mais parce que je suis un peu plus grande. Mais quand j'étais plus petite, je pense que les films que j'aimais bien, c'était ceux qui étaient plus faciles à comprendre. Enfin, il y avait moins de nuances, moins de messages cachés, je trouve. Alors que les films des parents, en général, je sais pas, ils sont plus complets.
Dans les films pour enfants, il y a toujours un méchant et un gentil très distincts, par exemple. Alors que dans les films plus adultes et plus évolués, on va dire plus travaillés, il y a toujours une nuance. C'est-à-dire que le gentil n'est pas toujours gentil. Le méchant a aussi ses côtés bons et le héros a des côtés sombres.
Quand je regarde un film, je sens que j'ai le cœur qui part à 100 millions de kilomètres à l'heure, parce que en fait ça fait des frissons quand il y a du suspense. Après t'es triste quand il y a un truc, oh non. Et moi c'est ce que j'aime pas, c'est que quand les films ils finissent bien, parce que c'est trop classique. Moi j'aime bien quand les films ils se finissent mal, et s'il y a une suite qui est bien, ça va, ça traverse.
Ouais, moi j'ai des parents qui regardent pas mal de films, mais celui qui m'a marqué c'est Chat Noir Chat Blanc. C'est vraiment un film qu'on regardait presque à tous les Noëls, un truc qui revenait, de Emir Kusturica du coup. Et c'est une histoire complètement décalée et farfelue, et même pour les enfants ça passe quoi. Donc moi j'adore ce film.
Aussi, il y a un film, et ça s'appelle Charlie Chaplin, et c'est en noir et blanc. Et ça connaît, et c'est super drôle. Et il y a dans un épisode, il chante en anglais.
J'en ai vu un en noir et blanc, ça s'appelait Les Quatre Tancos, mais je sais pas s'il est aussi, si c'est vieux ou si c'est juste un effet spécial.
Et t'avais bien aimé ?
Oui, j'avais bien aimé.
Moi, je préfère la couleur, parce qu'après, quand c'est en noir et blanc, comme t'as tout le contour en noir et blanc, tu crois qu'un objet est un autre objet, parce que c'est contouré de la même couleur, comme si on était dans un film tragique, et que d'un coup, toute la lumière solaire, elle s'enlève.
Les enfants, par exemple, ils peuvent voir des films et capter des messages que les adultes ne captent pas, justement, et vice-versa, du coup. Genre, c'est... Genre, les enfants, je pense pas qu'ils captent moins, mais qu'ils captent différemment.
Reportage Juliette Proutot, je vois mes invités très impressionnés par les goûts cinématographiques de ces enfants, notamment Chat Noir, Chat Blanc de Kusturica, Nicolas Boukrieff.
Ah oui, a priori c'est pas un film que je montrerai aux enfants, mais manifestement c'est possible.
Ça montre bien que cette question est absurde. Évidemment, les films pour enfants, les films pour adultes, ce sont les mêmes, Lydia Boukrieff.
Oui et non, ça dépend des familles, ça dépend des parents. Cette famille a montré ce film et ils savaient très bien où ils s'aventuraient avec leurs enfants et... C'est aussi une base de faire une proposition parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et après, la famille sait très bien s'arranger de tout ça.
À vrai dire, ce serait la question la plus compliquée de ce sujet, hein, le cinéma et les enfants. Qu'est-ce qui fait peur ? Quelles sont les images qui impressionnent ?
Alors justement, ça c'est une des vraies questions qu'on s'est posées pour le livre. Et c'est à part King Kong, parce qu'il est emblématique et qu'il crée de l'empathie chez les enfants, on s'est dit entre 3 et 8 ans, on ne met pas de films qui font peur. Parce que c'est dans chaque famille... que les gens connaissent, enfin les parents connaissent leurs enfants, ils se disent ça, ils pourraient le regarder. Le premier Frankenstein, par exemple, qui est un film magnifique, il y a des enfants de 6 ans qui pourraient le voir et adorer. Mais il y a d'autres enfants que ça va totalement terrifier. Donc on s'est dit, voilà, la limite, c'est la peur. Je pense que c'est chaque parent qui peut décider le degré de peur ou d'action, voire, quand je dis de violence, entre guillemets, hein, mais de brutalité qu'il peut y avoir dans un film. C'est, voilà, c'est chaque parent qui doit dire, ça, je crois qu'il pourrait le voir ou pas. Manifestement, dans cette famille, Chat Noir, Chat Blanc, ça passait. Dans une autre famille, ce film pourrait paraître comme très, très brutal et un peu terrifiant.
C'est souvent compliqué hein, d'imaginer à l'avance quelles sont les images qui vont faire peur, Lydia Boukrieff.
Oui, tout à fait, ça dépend de l'imagination de chaque enfant, parce qu'en fait, c'est un peu des portes ouvertes sur leur imagination. Souvent, ils ont peur de ce qu'ils imaginent plus que de ce qu'ils voient. Donc, le noir, il l'habite de tout leur monde. Donc, il y a des enfants qui sont sensibles au noir, d'autres aux méchants, d'autres... Enfin, c'est variable selon les enfants.
Ouais. Ariane Ascaride, vous avez entendu ce qu'a dit cet enfant, que le noir et blanc, c'était plus tragique que les films en couleur.
Mais c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé ça
manque
très,
de lumière
très beau.
Solaire.
Moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique qu'ils disent ça. Parce que, effectivement, je pense que dans la manière dont ils regardent le film, et le noir et blanc, de toute façon, provoque ça. C'est-à-dire que les situations, d'un coup, vous n'avez pas la possibilité de passer à travers, d'éviter la situation, d'éviter ce qui se passe dans le moment, parce que le noir et blanc vous renvoie à la situation, alors que si on met de la couleur, ça peut un tout petit peu se diffuser. Vous voyez, la force de ce qui doit être dit ou de ce qui veut être dit. Donc, je trouve que c'est extrêmement juste, mais je suis absolument fascinée par tout ce qu'il raconte, parce que, encore une fois, mais ça, moi, c'est un truc qui m'épate, quoi. C'est que, en fait, on devrait garder très, 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 très longtemps dans sa vie la capacité de lecture qu'ont les enfants. Et je trouve que cette liberté, il faut la leur laisser le plus longtemps possible. Et puis après, il faut essayer de l'entretenir en tant qu'adulte, vous voyez. Bon, pour moi, les enfants sont un exemple.
Mon premier festival, ce festival parisien qui va bientôt être majeur, hein, parce que c'est sa 17e édition, voilà. Dans la programmation, on trouve des films récents, bien sûr, mais aussi des morceaux de patrimoine.
Il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère.
Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup, et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher. Des ronds, quoi, je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue, puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai pu trouver. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé, parce que je voulais le lire. Et je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirai des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Et voilà, les enfants d'aujourd'hui peuvent retenir cette phrase. Les 400 coups de François Truffaut, film de 1959 au programme de mon premier festival la semaine prochaine. Ariane Ascaride, que voyez-vous dans ce film?
Ah ouais, de toute façon, c'est véritablement un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que la manière dont c'est filmé, ce petit garçon qui comme ça se balade dans Paris, et pour moi, c'est un Paris qui n'existe plus. Ça peut montrer aux enfants d'aujourd'hui que comment pouvait être Paris avant. Et en fait, il dit une chose fondamentale. Il dit, ce petit garçon, il dit, ouais, je mens de temps en temps. Oui, bien sûr, je mens. Mais en fait, si je leur disais la vérité, ils me croiraient pas. Et ça, je crois que c'est éternel, malheureusement, pour les enfants. Ça continue à exister. Nos enfants, des fois, nous disent des vérités que nous ne croyons pas. Vous voyez? Et puis, c'est un petit garçon. Ça raconte aussi l'histoire d'un petit gars, qui est dans le désamour maternel. Et ça, c'est des préoccupations que les enfants, que tous les enfants peuvent avoir, d'être sûr ou pas sûr que leur père ou leur mère les aime. Et là, de fait, c'est clair qu'il n'est pas aimé, quoi. Et il a mille et une capacités d'inventer des situations pour exister. Enfin, voilà. Je sais pas comment vous dire. Moi, c'est un film. Il y a un autre film de Truffaut qui s'appelle L'argent de poche que j'adore aussi. Truffaut, il a une manière de filmer les enfants que j'ai toujours trouvé extrêmement respectueuse aussi.
Oui. L'argent de poche, film de 1976, qui figure dans votre livre, Nicolas et Lydia Boukrieff, les 100 grands films pour les petits. Steven Spielberg dit qu'il a beaucoup appris de ce film, L'argent de poche. Il y a appris à se mettre à hauteur d'enfant, à filmer à hauteur d'enfant. D'ailleurs, je l'ai appris dans un autre bouquin que je vous montre, François Truffaut, film par film, de Christine Masson et Laurent Delmas, édition Gallimard France Inter. Ce sont deux noms que les auditeurs et auditrices de France Inter connaissent bien. Pourquoi L'argent de poche, Nicolas Boukrieff?
Parce que, encore une fois, comme on était sur les 3-8 ans, c'est le Truffaut qui leur correspond mieux, ouais. Dans lequel ils se reconnaissent le plus. Alors que les 400 coups est plus intéressant pour un garçon un peu plus grand. On a fait le test des 400 coups, ils le regardent, ça les intéresse vraiment beaucoup, mais c'est vrai que les préoccupations des jeunes garçons sont plus proches de la préadolescence.
Donc l'argent de poche avant 8 ans, les 400 coups après 8 ans, vous diriez?
Oui, d'ailleurs l'argent de poche sont à l'école primaire, alors que le petit garçon des 400 coups est au collège, donc on s'est dit, ça nous paraît c'est plus juste. Quoi.
On avait mis un film de Maurice Pialat aussi, L'enfance nue, qui traite aussi du désamour, et qui a aussi un ton un peu docu-fiction, mais un peu léger aussi, parce qu'on trouve que celui-ci passait à côté de la poésie des 400 coups, on trouvait ça dommage. On préférait attendre un peu avant de leur montrer. Et comme il y en a d'autres, des merveilleux chez Truffaut, voilà.
On poursuit notre liste sans aucun ordre chronologique, absolument aucun. Un film de Wes Anderson sorti en 2009. Pourquoi aimez-vous et pourquoi conseillez-vous Fantastic Mr. Fox, Nicolas Boukrieff?
Alors, Fantastic Mr. Fox, parce que le cinéma de Wes Anderson, qui est un cinéma très maniaque, très précis, une sorte de cinéma de control freak, on va dire, pour les adultes, qui ça crée des comédies qui sont très spéciales et très stylisées, très précises. En passant au film d'animation en volume, avec des marionnettes, toute cette faculté qu'a Wes Anderson de créer des espèces d'outre-monde extrêmement précis, extrêmement crédibles, ramener à un film pour enfants avec un personnage de renard, etc., ça crée un monde totalement enchanté. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à retrouver la grande force des films d'animation tchèques et des pays de l'Est des années 50 dans Fantastic Mr. Fox qui nous a paru essentielle.
On l'a pas encore dit depuis le début de cette émission, mais ce sont des films à voir avec les enfants pas à montrer aux enfants, Lydia Boukrieff.
Oui, tout à fait. On regarde avec les enfants, on apprécie avec les enfants. D'ailleurs, les enfants peuvent aussi nous conseiller des films à regarder parce qu'il n'y a pas que nous qui pouvons leur faire des propositions. Ils en ont à nous faire. Et celui-là est parfait, et il fait écho à un autre film de Starevitch, de L'horloge magique, que Wes Anderson a adoré enfant.
Et c'est vrai que c'est indispensable de voir les films avec les enfants, parce que c'est des moments de partage extraordinaires. C'est pas on les met devant des images, et puis comme ça on est tranquille pendant un moment.
C'est pas une manière de se débarrasser d'eux.
Non, c'est de la même façon que le soir, quand on leur lit un conte, on leur dit pas, tiens, prends le livre, regarde les images et débrouille-toi. On adore ce moment où, avant de s'endormir, on leur lit un conte. Eh ben, regarder des films avec les enfants, c'est exactement la même chose.
Et la bande originale de Fantastic Mr. Fox est très savoureuse, ça ne gâche rien, avec notamment les Beach Boys, extrait de la BO de Fantastic Mr. Fox, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Vous écoutez Barbatruc sur France Inter. And Villains, les Beach Boys sur France Inter. Nous parlons Cinoche dans Barbatruc cette semaine. Quel film voir avec ses enfants? Lydia Boukrieff et Nicolas Boukrieff qui ont écrit à quatre mains 100 grands films pour les petits sont mes invités, ainsi qu'Ariane Ascaride, comédienne qui est la marraine de mon premier festival. Alors vous êtes plutôt salle de cinéma ou séance domestique à la maison? Notre reporter a posé la question à des enfants, bien sûr, toujours dans les rues de Nantes et de Paris.
Dorothée Barba sur France Inter.
Moi, je préfère regarder les films chez moi. C'est plus confort.
Moi, je sais que quand je vais au cinéma, rien que pour le respect des autres, je touche pas à mon téléphone, je m'interdis de même de regarder l'heure. Juste pour pas déranger avec de la lumière ou quoi. Et puis, vu que l'écran, il est tellement prêt, t'es presque, t'as l'impression d'être dedans, quoi. Et des fois, il y a des petits bruits dans tes oreilles, donc c'est beaucoup plus immersif. Et t'es beaucoup plus dedans, même si un film nul au ciné, ça sera l'équivalent d'un film bien à la maison, quoi. Limite.
Au cinéma, c'est mieux. Parce que l'écran, il est géant. Et il y a plus de bruit.
Chez moi. Parce que je suis tranquille. Au cinéma, déjà, il y a beaucoup de gens. Parfois, il y a beaucoup de bruit. Parfois, dans les films, les gens, ils parlent. Alors que chez toi, t'es sur ton canapé, tranquille. Et voilà.
On est plus dans l'ambiance, je trouve. Ça change. Mais après
je trouve ça plus facile. Tu peux en regarder plus quand c'est chez toi. Parce que moi, par exemple, je vais au ciné de temps en temps. Mais je peux en regarder beaucoup plus si je regarde chez moi le soir. Et puis, on choisit tous ensemble. Et en suivant le mood du soir. Et enfin, je sais pas, je trouve ça sympa. En plus, quand on regarde chez soi, on peut regarder des vieux films. Enfin, on peut choisir.
Ouais. Qu'est-ce que je préfère pas, c'est de payer et que les gens arrêtent de faire du bruit.
Bah en fait ça dépend de comment ils sont. Parce que chez mon père on a un vidéoprojecteur, mais chez ma mère c'est pas exactement la même chose. Donc après chez ma mère je pourrais faire au cinéma, et chez mon père je pourrais faire à la maison.
J'aime les deux parce que chez moi mon père il me fait des pop-corn et tout ça. Mais au cinéma c'est un grand écran, un énorme.
Bah les avantages de la maison c'est qu'on peut régler le son. Et que généralement au cinéma c'est assez fort.
Bah moi je pense déjà quand tu vas voir un film au cinéma, ou enfin moi je préconise d'aller au cinéma parce que c'est une immersion plus totale et tout. C'est vraiment, genre, c'est une expérience.
Reportage Juliette Proutot en partenariat avec Bayard Jeunesse. Que retenez-vous, Ariane Ascaride, de ces paroles d'enfant? Je voyais.
C'est presque quand même 70-30, hein.
70 pour le canapé?
Non.
Ah non?
Non, non.
Okay.
Non, c'est 70 pour aller au cinéma, moi je trouve. Non, je pense que c'est mieux d'aller au cinéma, de toute façon. Ce qui me surprend, c'est d'entendre ces enfants dire, ouais, tranquille, je suis tranquille. C'est des paroles de vieux, ça. C'est très étrange.
L'argument du volume me convainc, Lydia Boukrieff. C'est trop fort, souvent, le cinéma pour les enfants.
Oui, c'est étonnant, mais dans les salles parisiennes, c'est plus fort qu'en province aussi. Je sais pas si c'est l'effet ville qui fait qu'on monte les curseurs, mais c'est vrai, quand on règle un film en salle, quand on travaille sur un film, les salles parisiennes sont toujours beaucoup plus fortes. Donc je sais pas si les enfants qui n'ont pas encore conscience du niveau sonore de la ville le prennent vraiment comme quelque chose d'un peu agressif.
Vous, quand vous avez écrit ce livre, 100 grands films pour les petits, vous n'avez pas spécialement de religion en la matière, Nicolas Boukrieff?
Non, parce que il faut bien voir qu'à Paris, on peut voir beaucoup de films anciens, il y a la cinémathèque, il y a tout ça. En province, c'est plus dur. Donc il vaut mieux mieux qu'un enfant voit Buster Keaton sur un écran chez lui que le dernier navet en 3D produit par aux États-Unis et qui n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment très variable. On va dire que le petit écran, c'est comme, enfin, on lit Dostoïevski en traduction, on ne lit pas en russe. Ça n'empêche pas d'être bouleversé. Donc je crois que un grand film, même sur un petit écran, reste un grand film.
Vous avez cité Buster Keaton. On l'ajoute évidemment à notre liste des cinéastes que l'on conseille aux enfants d'aujourd'hui. Charlie Chaplin, évidemment. Lequel en particulier, Lydia Boukrieff?
Nous, on a choisi La Rue est vers l'or parce que c'est le classique absolu à montrer aux enfants. Il y a absolument tout dedans. Et ça marche à tous les coups.
Et pourtant, c'est tragique à certains égards, hein, ce personnage qui mange une chaussure parce qu'il meurt de faim.
Oui, mais c'est une façon drôlatique de montrer cette situation. Ils sont confrontés à la misère aujourd'hui, vraiment d'une manière excessivement violente. Et cette façon de le regarder... voilà, alors
l'effet sourire. Vous n'avez pas mis le kid?
On n'a pas mis le kid, non, parce que même s'il est magnifique, il est dans une liste à côté parce qu'ils sont
dans
tous
la liste des films recalés. Hein.
Parce que le kid, c'est cet amour incroyable entre ce père et cet enfant.
En fait, ce qu'on ne voulait pas, c'était systématiser les films pour enfants. Ce sont toujours des films avec enfants. Donc, à mesure, on mettait l'argent de poche, on mettait l'enfance nue, etc. D'accord. Quand on avait le choix, à chaque fois, il y a un film, puis si vous avez aimé, puis il y a 3-4 films à côté.
Ah, d'accord.
Mais là, on ne voulait pas systématiser, parce que ça aurait fait un film qu'avec des personnages enfants, et un livre avec des personnages enfants, et ça aurait été un peu rébarbatif.
J'ai des souvenirs, personnellement, de fou rire d'enfants devant le kid. Spectaculaire. Quel autre film vous convoque ce genre de souvenirs? Quels films font rigoler les enfants?
Fantomas.
Nicolas Boukrieff.
Incontestablement. Ouais. Le Fantomas, André Hunebelle, provoque...
Avec Jean Marais, celui-là?
Avec Jean Marais,
c'est
provoque,
oreilles.
Irrésistible. C'est un film qui marche complètement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était un film presque de science-fiction. Et aujourd'hui, il est un peu vintage. Mais Fantomas continue avec son masque bleu à faire un petit peu peur aux enfants, mais juste ce qu'il faut. Donc voilà un film qui provoque des fous rires aux enfants. Au Brother des frères Cohen, La Partie de Black Edwards, avec Peter Sellers, c'est un film qui fait hurler de rire les enfants. Il y en a.
Au Brother, justement, qui se trouve page 200 de votre livre, 100 grands films pour les petits, on y trouve ceci. In constant sorrow. Des frères Cohen, un film joyeux, très festif, très drôle en effet, mais aussi très pédagogique. Et vous écrivez dans votre livre, Lydia et Nicolas Boukrieff, que plus que la plupart des films de la sélection, il est impératif d'accompagner les enfants durant leur découverte de ce film. Pour quelle raison?
Mais parce que c'est un film qui parle de la Grande Dépression aux États-Unis, c'est un film qui parle de racisme, c'est un film qui parle de beaucoup, beaucoup de paramètres de la société américaine et qui nous concerne toujours aujourd'hui. Et donc, c'est un film aussi qui a des images qui peuvent être un peu impressionnantes pour les enfants. Donc, c'est typiquement le film qu'il faut voir avec ses enfants. D'abord, c'est un film musical, qui a des moments musicaux, enfin, il y a des moments musicaux à peu près tous les 10 minutes. Donc, c'est très joyeux à voir avec ses enfants. Et ça permet à la fois de leur expliquer les films, de les prévenir de quelques séquences. Et voilà. Et puis, de l'apprécier avec eux. C'est une variation sur Le Magicien d'Oz, en fait.
Mais sans Dorothy,
exactement.
Alors là, pardon, mais...
Mais c'est un film, alors pour le coup, c'est vraiment pas un film où il faut... Nous, on l'a mis à partir de 8 ans, mais c'est vraiment pas un film qu'il faut laisser où il faut laisser les enfants seuls devant. Ça serait vraiment dommage de pas vivre ce moment-là avec eux.
On peut recommander d'ailleurs la double projection, hein, les deux films d'affilée, Le Magicien d'Oz et Au Brother.
Très bonne idée.
La programmation de mon premier festival la semaine prochaine à Paris, Ariane Ascaride, on y trouve notamment... Ce monument du cinéma français.
T'es un choucard. C'est pour toi.
Merci.
Je serais pas étonné qu'on prenne quelques grives. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'automne.
L'automne? C'est l'automne?
Et alors?
Ainsi, les jours de vacances, toujours semblables à eux-mêmes dans ce pays de Provence, ne faisaient pas avancer le temps. Et l'été déjà mort n'avait pas une ride.
L'automne.
Profitons bien de cette soirée. Parce que demain, on commence à faire les paquets.
Qu'est-ce que tu dis?
Et je dis que les vacances sont finies.
La gloire de mon père, film d'Yves Robert, 1990, adaptation de Pagnol. Quelle sensation, quelle émotion suscite chez vous ce film, Ariane Ascaride?
Alors si je l'ai mis dans ma sélection, je précise que c'est pas obligatoirement parce que c'est la gloire de mon père. Je l'ai mis parce que c'est un monsieur qui s'appelle Yves Robert. Mmh. Et que, en fait, moi j'aime beaucoup le cinéma d'Yves Robert, et entre autres, La guerre des boutons d'Yves Robert, qui est quand même un chef-d'œuvre.
Donc c'est pour Robert et pas pour Pagnol.
Oui, c'est plus pour Robert que pour Pagnol. Mmh. Après, c'est vrai que bon, la gloire de mon père, comme tous les enfants qui sont nés en Provence, moi j'ai été bercée par ça très vite, et aussi parce que j'ai envie de dire que, par exemple, vous voyez dans cet extrait qu'on entend, ce que je trouve formidable, c'est la voix de Jean-Pierre Darras qui fait la voix off, parce que c'est pile dans l'écriture de Pagnol, qui était un latiniste, un helléniste, qui aimait les tragédies, enfin qui était quelqu'un qui était vraiment un grand érudit et qui était le prototype même de celui qui avait pu faire des études grâce à l'école laïque.
Alors, je suis très contente pour ma part que vous ayez mis dans votre liste Mon nom et personne, Nicolas et Lydia Boukrieff, avec Henri Fonda et Terence Hill, un western qui date de 1973, inspiré par Sergio Leone, mais réalisé par son assistant, Tonino Valéry, avec une scène de bagarre dans un saloon qu'il faut montrer à tous les gosses d'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire que, comme on voulait traverser aussi tous les genres du cinéma, parce que l'idée c'est que ce soit éducatif, qu'il y ait de la comédie musicale, qui est du mélodrame, qui est à peu près tous les genres, la comédie évidemment. Le western, c'est en soi, on pourrait faire un livre pour les enfants de tous les westerns. Donc on s'est dit, on prend un western emblématique américain, qui était Rio Bravo, mais pour pas rester cantonné aux États-Unis, on a pensé à Mon nom et personne, qui est un film qui régale les enfants.
C'est drôle.
C'est un film drôle, solaire, absolument. Et il n'y a pas le côté agressif, voire un peu cynique qu'on peut trouver dans les films de Sergio Leone. C'est presque un positif des films de Sergio Leone.
Mais pour autant, c'est un exercice d'admiration, hein. C'est un hommage au grand classique du western. Est-ce qu'on peut le voir en n'ayant pas vu les films dont il est question?
Ah oui, complètement. Oui, parce que le film se fonde sur une mythologie. Donc la mythologie, ce soit le cinéma américain ou que ce soit juste la mythologie de l'Ouest, les enfants, ils réagissent complètement. Peter Anstey est comme un enfant. C'était vraiment ses débuts de star. C'est un des films qui a contribué à en faire une star du cinéma populaire italien. Et il est comme un petit garçon. C'est dans le film. Donc il est jubilatoire.
La Tortue Rouge, je voudrais qu'on termine avec ce film. Pourquoi La Tortue Rouge est-elle dans votre sélection? Personnellement, je trouve que c'est une pure merveille, ce dessin animé qui date de 2016, qui dure 1h15 et qui est signé du néerlandais Michael Dudok de Witt, Lydia Boukrieff.
Moi aussi, il m'a incroyablement bouleversée. J'adore le cinéma fait pour les enfants en général. Les studios Gilby ont myriade de films incroyables. Et
c'est
j'avais vu
un film en couleur.
Tout à fait, un film
mais
en couleur.
Dialogue.
Sans dialogue, tout à fait. Il allie parfaitement la modernité et tout ce qu'il y avait d'essentiel aussi dans les films du début, la liberté, la poésie. Moi, j'avais vu le premier court-métrage de ce réalisateur, Père et fille, qui est sublime, quelques minutes, mais d'une poésie incroyable. Et les studios Gilby ont vu aussi ce film, ils l'ont appelé et lui ont dit « Quel film as-tu envie de faire maintenant ?» Donc, il était quand même très impressionné parce que personne ne va au Japon travailler avec les grands animateurs. Et il a dit qu'il avait juste envie de filmer la mer, les tortues. Et du coup, ils l'ont accompagné entièrement dans le storyboard. Ils l'ont accompagné, ils lui ont fait un tapis rouge pour qu'il puisse faire ce film qui est une réussite absolue.
La Tortue Rouge.
Il est vraiment sublime.
Ariane Ascaride, puisqu'on parle des studios Ghibli, vous aimez beaucoup, je crois, Mon voisin Totoro de Miyazaki, auquel on a consacré une émission entière dans Barbatruc. Je renvoie au podcast de cette émission. Pourquoi on l'aime autant, Totoro?
Parce que c'est notre copain, quoi.
C'est un doudou.
Parce que c'est un petit côté, oui, bien sûr que c'est un petit côté doudou, mais plus que doudou, je dirais, parce que c'est notre ami. Parce que c'est celui qui est là, qui nous regarde, qui nous écoute, qui est attentif, qui peut transformer la réalité, qui peut faire des, surtout qui écoute, quoi. Voyez, je crois que c'est très très important, encore une fois, d'écouter, plus que de parler. Très important d'écouter.
Et comme promis, notre liste de films est très très longue. Beaucoup des films dont on a parlé sont disponibles sur la Cinéthèque. Je le signale, une formidable plateforme de vidéo à la demande sur laquelle on peut louer les films à l'unité ou alors s'abonner à l'année. Et puis je vous conseille aussi Benchy, c'est une plateforme de vidéo à la demande spécialisée dans les films pour enfants. Là aussi disponible sur abonnement, ça s'écrit Benshi. On trouvera évidemment toutes les infos sur le site de France Inter. Et puis toute la longue liste des films qu'on a conseillés aujourd'hui. Et on va y mettre un dernier. C'est Suzanne qui voulait nous conseiller un film. Suzanne, elle a 8 ans. Elle est animatrice de radio. Radio Velpo, c'est une radio tourangelle faite par et pour des enfants. Voici le conseil de Suzanne.
Aujourd'hui, je vais vous parler de Retour vers le futur. C'est un film de Robert Zemeckis qui est sorti en 1985. C'est lui aussi qui a réalisé Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore Forrest Gump.
Je vous ai rapporté une glace.
Ah, merci Forrest. C'est ma copine Agley qui me l'a fait découvrir l'année dernière lors d'une soirée pyjama.
Vous avez besoin que je vous prête un pyjama ?
Non, non, ça va, merci, j'ai ce qu'il faut.
C'est l'histoire d'un adolescent qui aide un savant fou à voyager dans le passé grâce à une voiture.
La routine habituelle, quoi.
Mais sa mère, en fait, elle a un coup de foudre pour son fils au lieu de son père.
C'est pas banal comme rencontre.
Pour pouvoir continuer à vivre, il doit aider ses parents à retomber amoureux pour pouvoir renaître dans le futur.
J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi,
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Hé, Suzanne, je rêve ou tu parles toute seule ?
Mais non, les filles, je suis en train d'enregistrer ma chronique sur Retour vers le futur pour France Inter.
Oh, t'imagines, Suzanne, si on pouvait conduire à la DeLorean ?
Rien de très compliqué. Il suffit de 4 roues, un volant, de l'huile de coude et un peu de plutonium.
Du plutonium ? Mais vous plaisantez ? Vous êtes en train de me dire que ce truc-là est nucléaire ?
Oh, ça va, Marty.
Et 9 minutes 37 secondes plus tard...
Je crois que c'est bon. Alors, dis-moi un jour au pif. Le 12 juillet 1998.
L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil.
J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche.
Oh putain. Oh là 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 là.
Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein.
Du calme, voyons.
Trop bien, ça marche. Bon, vas-y, à toi.
Bon, je sais pas moi, le 16 mars 2020.
Alerte coronavirus.
Merde.
Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous.
Eh hey Marty, tu veux essayer ?
Je dois m'en aller. Je vous remercie beaucoup, c'était super.
Mais Marty !
Vous avez été très gentil, au revoir et à plus tard.
Quel foussard ce gars.
Ah, c'est pas faux.
Trois choses à savoir sur la trilogie de Retour vers le futur.
J'écoute.
À l'origine, Marty devait voyager dans le temps grâce à un réfrigérateur. Steven Spielberg refusa car il avait peur que cela donne de mauvaises idées aux enfants.
Je ne m'inquiète pas pour toi, je m'inquiète pour le réfrigérateur.
Dans Retour vers le futur 2, Robert Zemeckis imagine que Donald Trump devient le maire de la ville. Donald Trump, le maire d'Hill Valley. Et pourquoi pas président des États-Unis ?
Et j'ai rencontré le président des États-Unis encore. Sauf que cette fois, on n'a pas eu droit à un très bel hôtel.
Saviez-vous que les scénaristes avaient imaginé des objets qui existent réellement aujourd'hui, comme les écrans tactiles, les chaussures qui se lassent toutes seules, et même les pizzas déshydratées dont raffole tant l'astronaute Thomas Pesquet.
Et voilà !
Et un chef, maman, personne n'hydrate une pizza comme toi.
Ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est qu'il y a de l'humour, de l'action et surtout beaucoup d'imagination. Hé, Suzanne, un dernier voyage avant d'aller faire les devoirs ?
Attends, j'ai une idée. Le 26 octobre 2033.
C'est parti !
France Inter, 7h. Suzanne et Lou, le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le 26 octobre 2030.
Laissons-les venir, même pas peur.
Non, attendez, c'est n'importe quoi.
Alors là, n'importe quoi.
Merci beaucoup Suzanne et merci à Radio Velpo. On trouvera bien sûr sur notre site un lien vers cette radio fabriquée par des enfants. Un film visionnaire et prophétique à bien des égards, donc Retour vers le futur, Nicolas Boukrieff.
Un classique de la science-fiction. Pour les enfants de vers 10 ans, c'est parfait. Ça leur explique les paradoxes temporels, etc. etc. C'est un petit classique aujourd'hui.
Et je précise que les enfants peuvent même contribuer à cette radio associative Radio Velpo en envoyant leurs chroniques et leurs reportages sur leur site internet. Merci mille fois à Suzanne. On a rendez-vous à présent au rayon jeunesse d'une librairie avec Denis Chessou. Denis qui surveille de près l'actualité du livre pour enfants. Au programme cette semaine, du fantastique et une menace, l'arrivée d'une petite sœur.
Dorothée Barba sur France Inter.
La tulipe, mon petit loup.
Et oui, c'est parti Dorothée avec « Il faudra » de Ramona Badescu et Lorraine Capelli aux éditions La Partie à partir de 4 ans. La nouvelle a déferlé. Les parents avaient une voix différente de celle de d'habitude.
Bientôt, tu sais, il faudra que tu partages. Le chocolat, le temps et aussi nos bras.
Alors pour le chocolat, c'est pas très grave, elle aime pas ça. Mais elle espère simplement pouvoir garder son lit et cette lampe de chevet qui permet d'éloigner les cauchemars.
Il faudra que je t'apprenne le nom de notre chat tigré qui aiguise ses griffes sur le grand fauteuil. Pour toi, il faudra un biberon pour réchauffer le réveil. Après, on ira renifler l'air frais du dehors et on soufflera comme des dragons dans le grand froid.
Alors c'est un récit généreux d'une petite fille qui se projette dans son rôle imminent de grande sœur. Ah bah oui, il faudra partager, mais aussi montrer et garder pour soi.
Il faudra que la lumière qui rabotisse en octobre se reflète dans une flaque et qu'on regarde ensemble les feuilles du cerisier tomber une à une.
Dans un inventaire poétique, elle déclame à l'enfant qui va naître la liste des savoirs accumulés et des bonheurs à venir.
Il faudra qu'ici tu mettes un pas après l'autre et que nos pas beautés traversent toute cette neige.
À bien y réfléchir, la liste des choses à prévoir est très longue quand on va devenir une grande sœur.
Il faudra pour toi aussi un cahier bleu pour les rêves et un vert pour les problèmes.
Chaque saison apportera son lot de choses à faire.
Surtout, il ne faudra rien dire, ni de la queue de lézard, ni de la peau de serpent, ni du scarabée d'or et encore moins des crânes de blaireau. Si tu veux voir aussi le reste du trésor.
Finalement, être grande sœur, c'est ouvrir la voie, c'est transmettre, c'est partager toutes les petites choses qui font qu'à deux, c'est encore mieux. Le moment n'est pas encore venu toutefois.
Même si nous, on manque un peu de patience, on se dit, il faudra que tu sois là toi aussi, c'est sûr.
L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, alors c'est vraiment un sujet qui est privilégié par la littérature jeunesse. Et ici, Ramona Badescu raconte avec une langue coulante, une poésie libre, l'attente et la somme des petits bonheurs anticipés qui animeront le quotidien lorsque d'un enfant, ils passeront à deux. Désir de transmission qui fait de l'enfance un spectacle. Alors vous avez aussi les illustrations de Lorraine Capelli, qui nous mène à travers les saisons avec des silhouettes au stylo fin, traversées mais vraiment par des touches de couleurs lumineuses au pastel sec pour une esthétique délicate et éthérée. Donc idéal pour l'arrivée d'un nouvel enfant, il faudra, c'est aux éditions La Partie à partir de 4 ans. Anisou et le réenchantement de la forêt de Jennifer Dalrymple aux éditions Atelier du poisson soluble, c'est pour les 4-7 ans. Oh oh ! Un livre abandonné sur le chemin de retour de l'école, dans le grand blanc et le froid de l'hiver. Mais qu'est-ce donc ce livre ?
Le livre s'ouvre sur l'image d'un oiseau. Rouge-gorge, précise Anisou.
Et là, à ce mot, la page tremble et l'oiseau s'envole.
Le rouge-gorge lance une trille qui remplit la forêt blanche.
Oh, le livre magique! Alors elle nomme chaque oiseau dessiné sur la page.
Mésange, corbeau, coucou, chouette et grand hibou.
Tous s'envolent du livre. Page suivante, alors qu'un petit troll poilu veut s'amuser avec elle, Anisou trouve les images de mammifères, d'amphibiens.
Hérissons, blaireaux, chauves-souris, crapauds, écureuils, lézards.
Tous apparaissent.
Encore, encore, danse le troll.
Loups, cerfs, lynx, ours peuplent la forêt qui verdit aux violettes, aux fougères, aux mousses qui sortent des pages également.
Et le troll rajoute des noms chantés, sifflés, des noms frappés entre ses mains.
Fées, gnomes, lutins, tous les esprits sortent.
On a réenchanté la forêt, murmure Anisou.
Une sarabande, mais c'est quand même un peu trop.
Troll, arrête tout ça, ce n'est pas la forêt que je connais. Le troll prend le livre et paf, le referme et la forêt redevient silencieuse et blanche.
Alors au-delà de l'improbable, sous un joli trait enjoué, Jennifer Dalrymple évoque nos liens rompus avec la nature et avec le fantastique dont elle se délecte comme une enfant. Ah, il faut déjà prêter le minimum d'attention à nos voisins non humains qui nous entourent, c'est ce qu'elle nous dit. Réenchanter nos esprits qui réenchanteront le vivant, mais en respectant le cycle des saisons et des lieux. Anisou et le réenchantement de la forêt, Jennifer Dalrymple, aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble, c'est pour les 4-7 ans. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci à vous, Denis Chessou. On approche de la fin de Barbatruc. J'ai une dernière question à poser à mes invités, Ariane Ascaride, Nicolas Boukrieff et Lydia Boukrieff. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Ariane Ascaride.
C'est une odeur de bois, mais pas de feu de bois. C'est une odeur de bois parce que j'ai passé beaucoup d'années de mon enfance, j'avais énormément de plaisir à m'enfermer dans un placard où il y avait des vieux livres, Donc c'est une odeur mélangée de bois, parce que le placard était fait en bois, et de très vieux livres.
Avec une lampe de poche ?
Ah non, il était vraiment très grand, vous voyez ?
Donc il y avait une lampe.
Il y avait une lampe.
Voilà. Génial, comme cabane.
Bah voilà, c'était une cabane. Je montais avec l'échelle et je m'enfermais complètement dans le placard puisqu'il y avait des portes coulissantes.
Et vous, Nicolas Boukrieff, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Il y en a beaucoup, l'odeur du soleil, on va dire, puisque je suis né sur la Méditerranée, donc l'odeur du soleil.
Ça sent quoi ?
Plein de choses. Ça dépend des saisons.
Lydia Boukrieff, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Alors bon, on va rester dans la nature. Moi, c'était les pins des Landes. J'allais m'allonger dans la forêt de pins des Landes et je regardais les pins monter jusqu'au ciel. Et voilà.
Le bois d'un placard, le soleil et les pins des Landes. On met sous cloche ces trois odeurs. Elles rejoignent notre inventaire olfactif de l'enfance. Mon premier festival, c'est donc à Paris du 20 au 29 octobre prochain.
Et un invité d'honneur qui est Rémi Chaillet.
Voilà, Rémi Chaillet. Une programmation iranienne également.
Et une programmation de films iraniens.
Tarif unique, 4 € pour les séances de mon premier festival. Ariane Ascaride est également sur la scène du théâtre de la Scala à Paris jusqu'au 6 novembre pour un spectacle poétique et musical sur la ville de Paris, ça s'appelle Paris retrouvé. Et ce livre est très vivement recommandé. 100 grands films pour les petits de Lydia et Nicolas Boukrieff, de Max Linder à La Tortue Rouge, chez Grund et Arte Éditions. Grand merci à vous trois.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci et à bientôt sur France Inter. Merci pour cette belle liste.